plonge dans l'histoire du génocide rwandais. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus aujourd'hui. On vous doit Nymphéa Noire, Un avion sans aile, Maman à tort. Vous êtes géographe de formation. Vous avez enseigné longtemps à l'université de Rouen et vous êtes spécialiste de la géographie électorale. On pourra en reparler d'ailleurs parce qu'on n'est pas très loin de ces questions-là dans votre nouveau roman. Vous vous éloignez quelque peu du polar avec une fiction, mais qui évoque l'un des pires génocides depuis la Shoah. 800 000 Rwandais, hommes, femmes et enfants, principalement Tutsis, qui ont été massacrés en 1994. Vous étiez enseignant, chercheur à cette époque-là. Vous vous souvenez du moment où vous avez appris et compris ce qui se passait là-bas ?
Oui, c'était ma première année d'enseignement. Moi, j'enseignais la géographie politique à des étudiants. Et évidemment, le génocide rwandais, je leur ai enseigné. Et très vite, ce qui m'a marqué dans ce génocide, et d'ailleurs, il y a un très fort lien avec la Belgique, c'est que la façon dont les médias traitaient ce génocide en France n'était pas du tout la même que celle de la façon dont on le traitait en Belgique, en particulier les articles de Colette Brackmann qui étaient publiés dans Le Soir et qui très vite ont dit c'est pas des génocides, c'est pas un double génocide, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda, avec toute une planification. Et effectivement, ces articles étaient assez marquants et j'ai fait longtemps travailler les étudiants justement pour montrer comment la France, qui était clairement impliquée dans ce génocide, eh bien, quelque part, avait une forme de déni, alors que, quelque part, Colette Brackmann, elle, dès le départ, parce qu'elle était sur le terrain, effectivement, a dit, la première, sans doute, ce qui s'est réellement passé, ce qu'ont confirmé les historiens depuis.
Ouais, les ombres du monde, c'est une fiction, c'est une histoire familiale, mais avec un contexte rigoureusement documenté, comme vous venez de nous l'expliquer. On va faire la connaissance d'une ado de nos jours, Maë, elle a 15 ans, sa mère est originaire du Rwanda, elle est arrivée à l'âge de 3 ans pour fuir les massacres de 94 avec son père Yorick, un militaire français, dont l'épouse, et donc la grand-mère de Maë, est décédée dans des circonstances qu'on ne découvrira que beaucoup plus tard. On va suivre deux temporalités, cet ado de nos jours, et puis l'histoire d'Espérance, sa grand-mère, au début des années 90 au Rwanda. Elle est professeure de mathématiques, de mère Tutsi, de père Hutu, et elle ne souhaite pas être ni dans une case ou l'autre. Et d'ailleurs, vous rappelez que cette distinction Hutu-Tutsi, elle est arrivée au début du XXe siècle, quand les colons belges sont arrivés. Le personnage de Constance, elle dit à ce propos, les Belges ont exporté au Rwanda leurs problèmes d'identité.
Oui, peut-être. Enfin, c'est une des hypothèses. C'est vrai que c'est assez marquant que ce pays du Rwanda. Il faut savoir que le Rwanda n'avait pas de différenciation réellement Hutu-Tutsi avant la colonisation. C'était plutôt un royaume où ces deux anciennes ethnies finalement se mélangeaient. Et ce sont les Belges, clairement, qui ont établi des cartes d'identité. En gros, 15% de la population devenait Tutsi à partir du moment, notamment, où ils possédaient plus de 9 vaches, où ils faisaient plus d'1m80. Mais comme la filiation se déterminait par le père, et qui avait quand même beaucoup de mariages mixtes, finalement, un siècle après, les Hutus, les Tutsis se différenciaient assez peu physiquement, et c'était presque arbitraire, c'est-à-dire, voilà, votre père était Hutu, vous deveniez Hutu, quel que soit le reste, quelque part, de votre, quel que soit, par exemple, le statut de votre mère. Donc, c'était quelque chose de très artificiel, parce que les Rwandais sont tous catholiques, parlent tous la même langue, le Kinyarwanda, habitaient les mêmes villages.
Avec donc, c'était le même Dieu.
Voilà, avec le, voilà, Dieu, à l'origine Imana, et puis depuis catholique, c'était sans doute le pays le plus catholique, et ça le reste, d'Afrique. Donc voilà, donc c'est une distinction complètement arbitraire, et c'est aussi sur cette forme d'absurdité qui va aboutir à l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité que ce roman repose, parce que mon héroïne Espérance, par exemple, elle est à la fois les deux, c'est-à-dire qu'elle est née d'une maman Tutsi, parce qu'elle ne connaît pas son père, mais son père, qui est Hutu, va la reconnaître plus tard. Donc elle ne sait pas qui elle est. Elle est à la fois les deux, ou elle naît simplement rwandaise.
C'est un personnage de fiction, il vous a été inspiré par une histoire, un témoignage que vous avez lu, Constance, ou c'est...
Alors, Espérance, très tôt, quand je suis devenu écrivain, et puis d'un autre côté, j'étais spécialiste de la démocratie comparée, j'ai eu cette idée d'inventer deux personnages, Espérance, donc cette jeune démocrate rwandaise, et puis d'un côté Yorick, qui est un militaire français, un parachutiste qui va arriver en 90, au moment où les Français arrivent à Kigali pour sauver ce régime dictatorial, et donc ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, ils vont avoir un enfant, et ils vont traverser tous les événements du Rwanda avec leur histoire d'amour à la fois forte, à la fois impossible, puisque Espérance d'un côté et Yorick de l'autre, ce sont presque des allégories de la France et du Rwanda qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, mais qui ne vont jamais se comprendre et qui vont finir par provoquer une catastrophe effroyable.
Vous êtes géographe, hein, Michel Bussy. C'est une histoire de géographie aussi que ce génocide rwandais, avec les exilés Tutsi qui sont disséminés un peu partout, au Burundi, en Ouganda, au Congo. Pour vous, c'est dans le texte d'introduction au livre, hein, la géographie, elle ne sert pas à mener la guerre, mais à construire la paix. Comment comprendre ça? Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est l'inverse.
Alors c'est vrai que longtemps on a dit, hein, c'était Yves Lacoste, un géographe français, qui avait dit la géographie ça sert d'abord à faire la guerre. Donc les géographes étaient souvent les conseillers du prince, c'est-à-dire que c'est eux qui détenaient les cartes. Et en fait moi j'ai construit un peu ma recherche sur l'inverse en disant aujourd'hui la géographie ça sert à faire la paix, notamment parce que les espaces se construisent aujourd'hui beaucoup à travers des coopérations. On voit l'Union européenne, hein, qui coopère, on voit même en Belgique où les entités sont obligées de coopérer. Voilà. Et donc finalement la géographie sert aujourd'hui bien plus qu'à envahir des territoires. Bien sûr, il y a encore des guerres territoriales, hein, mais finalement, qui sont de moins en moins importantes. Les frontières, finalement, sont relativement figées. En Europe, par exemple, les frontières sont figées. Et la géographie, elle sert à faire comment on va arriver à coopérer, à négocier, à avoir des formes de représentation démocratique dans un monde où, si on ne peut plus bouger les frontières, il faut quand même faire bouger des alliances, il faut quand même trouver des accords, des compromis. Et en ça, la géographie, j'espère qu'elle est utile à la paix.
Vous êtes largement intéressé dans ce livre au rôle de la France dans le génocide rwandais. On sait aujourd'hui que ce rôle a été reconnu officiellement par le président Emmanuel Macron depuis quelques années déjà, que la France a sa part de responsabilité dans le génocide des Tutsis. En fait, à l'origine, le président rwandais Habyarimana a exagéré la menace que représentaient les rebelles Tutsis, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui venait de l'extérieur du pays et qui rassemblait les exilés Tutsis. En fait, c'était une manière de faire intervenir la France.
Oui, ça c'est vrai. L'arrivée des Français à Kigali, donc en octobre 90, c'est une manipulation. C'est-à-dire que le président Habyarimana fait croire que les rebelles sont dans Kigali, qu'il y a des tirs de fusil, etc. Alors que ce sont simplement des feux d'artifice, des pétards. Et Mitterrand va envoyer ses troupes sur une manipulation. Et les Français, une fois qu'ils arrivent au Rwanda, ils sont accueillis comme des héros. Ils viennent de sauver le pays des rebelles Tutsis. Et donc, quelque part, ils sont piégés parce que ce sont les héros d'un peuple qui ont empêché une guerre civile. Qui au départ est factice, c'est le président, le dictateur, qui, parce qu'il va être renversé, crée cette diversion. Et c'est assez fou de se dire que ce génocide va en partie naître de cette manipulation assez grossière au départ. Les Français ne sont pas dupes, mais ils sont piégés.
Ouais. Dans votre roman, on se retrouve dans le Rwanda d'aujourd'hui aussi, puisque la jeune Maëlle va faire un voyage à la découverte de ses racines avec son grand-père, sa mère. Elle va notamment visiter le parc national des Virunga, là où vivent des gorilles. Hein, c'est devenu un haut lieu du tourisme. Et alors à ce moment-là, je ne vais pas révéler ce qui va se passer, mais l'intrigue va prendre une autre épaisseur. C'était aussi une envie de parler du Rwanda aujourd'hui.
Oui, c'était très important. Moi, quand j'ai dit je vais me rendre au Rwanda pour faire un roman, ma famille, autant dire le Rwanda, mais t'es fou, ça va être dangereux. Et il y a encore cette représentation, au moins en France, du Rwanda comme un pays qui serait dangereux. Et cette représentation change. On voit aujourd'hui, il y a le championnat du monde de cyclisme au Rwanda. C'est la première sur le sol africain. On parle d'un Grand Prix de Formule 1, peut-être à Kigali. Donc, on a ce Rwanda moderne, ce pays sans plastique, ce pays hub de l'Afrique, un grand aéroport international qui se construit. Donc, on a cette vision très moderne du Rwanda, d'un pays qui absolument magnifique, un pays qui s'ouvre au tourisme, un pays aussi avec des très très grands écarts de richesse. Kigali est une ville moderne. Dès qu'on sort de Kigali, on est dans l'Afrique noire la plus démunie, sans eau courante. Enfin, donc c'est un pays qui est assez fascinant. Et je voulais évidemment parler de ce pays aujourd'hui qui peut être extrêmement fascinant. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a 30 ans, il y a eu évidemment ce génocide. Il y a des lieux de mémoire absolument partout. Et donc, on navigue en permanence entre cette mémoire et ce pays qui s'est reconstruit, ce pays qui est sûr aujourd'hui. Donc, c'est aussi un des grands mystères. C'est mon héroïne s'appelle Espérance. C'est un peu ça. C'est ça montre que même après l'un des pires génocides dans un petit pays, eh bien, on n'est pas condamné à ce que les enfants de bourreaux redeviennent à leur tour des bourreaux. Et on peut espérer, en tout cas, qu'au Rwanda, finalement, une génération après, c'est Hutu et c'est Tutsi, mais qui n'existent plus officiellement. Mais tout le monde se considère comme inscrit sur la... qu'on en finisse avec ces, ouais. Avec ces guerres, je dirais presque centenaires.
Ouais, c'est d'ailleurs le sujet de l'épisode des clés qui était diffusé hier et qui a été retrouvé évidemment en podcast, ce soft power rwandais. Et vous dites d'ailleurs que le Rwanda est un pays, c'est le personnage qui dit ça, elle arrive et c'est incroyablement propre, il n'y a aucune décharge à ciel ouvert, aucune poubelle éventrée, une pauvreté sans saleté, une misère immaculée.
Oui, c'est assez étonnant, c'est vrai, d'avoir un pays qui est comme ça, une sorte de vitrine très propre pour les touristes, et d'un autre côté, d'avoir une pauvreté assez extrême qu'on va même pas rencontrer en Europe. Donc c'est vrai que c'est le grand écart souvent de ces pays, mais qui est particulièrement fort au Rwanda.
Merci Michel Bussy. C'est à la fois un vrai Michel Bussy, ces ombres du monde, avec une intrigue, et en même temps c'est un roman qui raconte de manière très documentée ce pan de l'histoire du génocide rwandais. Les ombres du monde, Michel Bussy, merci d'avoir été avec nous ce matin.